Quel miracle! Quel curieux miracle, n'est-ce pas? Est-ce que Jésus, pour son premier miracle de l'évangile de Jean, n'aurait pas pu plutôt, je ne sais pas, guérir un malade ou relever un infirme? Enfin, est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir quelque chose de plus, de moins, enfin bon, de plus essentiel que changer l'eau en vin? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? C'est important, ça, de transformer l'eau en vin? Pas trop, hein? Non. Je suis d'accord. Mais manifestement, le rédacteur de l'Évangile veut nous dire quelque chose d'important. Pendant un mariage, une noce, Jésus change l'eau en vin. C'est le premier miracle de l'Évangile de Jean. Et donc, c'est censé être une très bonne nouvelle. Nous résistons souvent aux miracles, où nous avons de la peine, si nous les croyons, à les faire nôtres pour la vie quotidienne. Dans notre société moderne, les miracles peuvent même faire obstacle à la foi. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? On m'a déjà fait croire au Père Noël, alors le petit Jésus et ses miracles, je n'en veux pas. Véridique, c'est ce que j'ai entendu d'un enfant devenu grand. J'espère que plus personne ne croit au Père Noël. Pourtant, les miracles tiennent une très grande place dans la Bible. Si par exemple, dans l'évangile de Marc, nous supprimons tous les miracles, eh ben, il ne reste plus grand-chose de la vie de Jésus. Cette année, vous l'avez entendu, les monitrices du jardin biblique ont choisi ce thème des miracles avec les tout-petits. La pêche miraculeuse, les noces de Cana, Jésus qui marche sur l'eau, ou encore la tempête apaisée, sont quelques-unes des histoires qui vont être racontées aux enfants. Quel que soit le passage biblique raconté, à chaque âge, sa perception de l'histoire. Et pour nous, il est important de creuser les miracles, d'aller plus loin, de nous avancer encore dans leur signification et leur élan de vie. Car bien sûr, nous le croyons, si la Bible nous parle autant de miracles, ce n'est pas pour nous faire croire à la magie, mais c'est pour nous faire sentir quelque chose d'important qui se passe où ? Au fond de notre cœur. Dans l'évangile de Jean, ce que nous appelons miracle est en fait appelé par un autre mot que j'ai lu au verset 11, tout à la fin. Est-ce que vous vous rappelez ? On dit « c'est le premier signe ». Séméion en grec. Alors que dans les trois autres évangiles, on utilise encore un autre mot qui n'est pas miracle, qui est un mot qu'on peut traduire par acte de puissance, qui est dunamis en grec. En fait, ce mot miracle que nous utilisons est un glissement des termes premiers des évangiles et peut induire chez certains de la méfiance. Dire que Jésus nous donne à voir des signes ou dire qu'il agit avec puissance, cela nous pouvons l'entendre. Mais pour certaines personnes, dire que Jésus fait des miracles, cela est plus difficile à recevoir. L'évangile de Jean rapporte 7 signes. Cana en est le premier. 7, les enfants, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce chiffre, dans la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé en 7 jours? Ah, oui, Cléo. Dieu a créé la terre. 7, dans la Bible, ça signifie l'entier, le bon, le plein. Et dans notre histoire, Jésus, lui, vient d'arriver en Galilée avec ses disciples qu'il vient d'appeler à sa suite. Alors, pourquoi de l'eau et pourquoi du vin? Dans le Premier Testament, l'eau est associée à la loi de Dieu. Dans le livre de l'Exode, le peuple reçoit la loi en traversant la mer des joncs. Le peuple juif utilisait de l'eau pour être purifié selon leur rite. Et chez Jean, nous retrouvons l'eau dans une autre histoire, Nicodème. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Où Jésus apprend à cet homme qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Il y a aussi l'histoire de la Samaritaine au puits. Ou encore le lavement des pieds dans l'évangile de Jean. Ça, vous l'avez vu l'année dernière, le lavement des pieds. Et ici, l'eau n'est plus synonyme de loi, mais de renaissance, de vie nouvelle donnée en Jésus-Christ. Ainsi, placer le signe de la transformation de l'eau en vin au début de l'évangile témoigne du glissement du sens de l'eau. Liée à la loi, l'eau devient en Jésus-Christ vie nouvelle, libération, pardon des péchés. Lui-même, Jésus-Christ, eau vive pour toutes celles et ceux qui croient. Les enfants, est-ce que parfois on utilise de l'eau au culte? Jules, pour les baptêmes, oui. Eh bien, le baptême, c'est la même chose. Le baptême, c'est le signe de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et le vin, alors, qu'est-ce que veut dire, signifie ce vin dans cette histoire? Dans le Premier Testament, il est toujours lié au repas de fête, aux noces. Et il est toujours en abondance, comme une denrée essentielle à la vie. En même temps, il y a deux autres denrées avec le vin citées. Les grands, est-ce que les plus grands, vous savez, dans l'Ancien Testament? Presque. Avec quoi on fait du pain à partir de? Et encore avant, voilà, de blé. Il y a le vin, le blé et encore une, l'huile. Voilà, dans le Premier Testament, ce sont les trois denrées qui sont données en abondance, signe de fête, signe de vie. Le vin est aussi signe de bénédiction. Il est aussi l'image du vin promis pour la fin des temps. Et chez Jean, on retrouve le vin de façon imagée dans l'histoire de la vigne. Jésus dit « Je suis la vraie vigne et mon Père est le... » Celui qui s'occupe des vignes, les enfants, s'appelle le vigneron. Alors ici, situer le premier signe lors d'une noce témoigne de ce côté de fête, de cette alliance nouvelle dans l'amour et par la présence de Jésus. Alors nous pourrions dire encore beaucoup, beaucoup de choses très intelligentes sur ce texte qui est riche en allusions et en significations bibliques et théologiques. Mais, passons aux choses sérieuses pour une prédication. Car nous n'avons pas encore partagé l'essentiel. Ici, nous étions dans les amuse-bouches. Quelle est la bonne nouvelle pour nous ce matin? En quoi cette histoire de noces réussie peut changer notre vie, notre regard, notre cœur? Car la foi se manifeste par la rencontre avec le Christ vivant. Alors, à l'écoute de ce texte, où est-ce que je peux rencontrer le Christ vivant? Soit dit en passant, vous avez peut-être remarqué que Jésus n'est pas décrit dans cette histoire sous son meilleur jour. Est-ce que vous avez remarqué comment il répond à sa maman dans le texte, les enfants? De façon pas très gentille. Hein, voilà. En gros, femme, que me veux-tu? Littéralement, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ou bien encore, quand il parle aux serviteurs, il leur donne des ordres lapidaires sans dire « s'il te plaît ». Jésus ne paraît pas ici très sympathique. En même temps, l'évangile de Jean n'a pas pour vocation de nous dépeindre un personnage avec qui on aimerait passer ses soirées au coin du feu. Mais cet évangile se construit sur sept signes comme perfection, comme complétude, de cette promesse de Dieu, ce Dieu fait homme qui est venu pour nous donner la vie. Comme les six autres signes, celui-là a pour fonction de nous conduire à la foi et de manifester la gloire de Dieu, comme le dit le verset 11. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Jésus montre sa gloire et ses disciples croient en lui. Alors et pour vous ce matin? Est-ce que entendre cette histoire à Cana vous aide à recevoir la gloire de Dieu? Est-ce que cette histoire de noces est une bonne nouvelle pour vous? Nous revenons à nos questions de départ. Si les miracles ont parfois des difficultés à faire sens dans nos vies, nous aimerions souvent, paradoxalement, en être un peu plus témoins. Si seulement ils pouvaient guérir, si elles pouvaient retrouver la joie de vivre, si notre monde pouvait vivre en paix. Nous avons tous dans nos cœurs un petit miracle en attente. Et pourtant déjà, c'est vrai, chaque jour ou presque, nous sommes tous et chacun témoins de signes comme puissance de Dieu dans nos vies et dans celles des autres. Ce couple qui, au bord de la rupture, démarre une nouvelle vie. Cet homme qui retrouve le marché du travail après tant d'années. Cette jeune femme qui enfin donne naissance à son premier enfant en bonne santé. L'amour de nos proches dans les petites choses du quotidien. Le cycle fidèle des saisons qui pourvoit à notre nourriture. Le soleil qui se lève encore et toujours chaque matin. Pensons-y, nous sommes des miraculés. Cabossés peut-être, malmenés parfois, perclus de doutes, mais vivants. Anéantis de culpabilité, oui, cela arrive. Entourés d'obscurité aussi, mais dans les mains de Dieu. Voilà le miracle, le signe, l'action puissante du Christ dans nos vies. Il est là et il agit chaque jour. Il agit dans vos vies d'enfants. Il agit dans nos vies de femmes et d'hommes. Si vous prenez le temps, si vous faites silence, si vous ouvrez votre cœur, vous le verrez, vous l'entendrez, vous le sentirez. Promesse de vie nouvelle, se manifestant au plus profond de vous. Et témoin de la gloire de Dieu, il nous demande aussi d'être ses serviteurs. Vous avez remarqué que dans notre texte, ce n'est pas Jésus qui agit. Il donne des ordres et ce sont les serviteurs qui remplissent les jarres pleines d'eau. Aujourd'hui, dans notre monde, à sa suite, nous sommes ses serviteurs, à l'écoute du Maître. Nous sommes des passeurs des signes en son nom. Agissons en témoins du Christ à son appel. « Je suis avec toi, nous dit-il. Laisse-moi te transformer pour une vie renouvelée. Et par toi, je renouvellerai aussi celle des autres, afin que tous croient et que ma gloire soit complète. » Amen.